Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Caroline s'interroge de l'impact du tourisme sur les cultures et peuples du monde. Aujourd'hui, directrice de l'ATES, un réseau national de tourisme équitable et solidaire, qui promeut un voyage au plus près du monde et de ses habitants. J'ai rencontré Caroline sur le festival du Grand Bivouac à Albertville. Rencontre avec Caro, qui nous parle de son itinéraire et de son engagement. Qui est Caroline ? Parle-moi de toi, parle-moi de ton univers, ton parcours, et ce qui fait que tu t'es mise à bosser dans le tourisme.
Alors, comme disait mon petit frère, quand j'étais petite, quand lui était petit, il a 6 ans de moins que moi, quand on lui demandait ce que voulait faire sa grande sœur comme métier, il disait « elle veut être touriste comme papa ». Donc ça remonte à loin. Mon père était dans le secteur, il y est toujours à titre bénévole puisqu'il est retraité, dans le secteur du tourisme social, donc il œuvre au départ en vacances du plus grand nombre. Donc j'ai toujours eu ça un peu comme objectif, de faire le même travail que papa, parce que je trouvais ça formidable, il voyageait beaucoup, il rencontrait plein de gens, je trouvais que ça avait du sens ce qu'il faisait, etc. Donc je me suis assez naturellement orientée vers des études de tourisme. J'ai travaillé assez tôt, j'ai d'abord travaillé dans le tourisme de jeunes, sur des gros événementiels nationaux. En France, qui avait pour objectif de faire venir des jeunes en France, leur faire découvrir la France. Donc j'ai travaillé pour la Conférence mondiale du tourisme de jeunes qui avait été organisée à Paris en 1997. Et l'une de mes plus belles expériences, c'était en 1998, pendant la Coupe du monde de football. Donc ça, ça a été assez fondateur pour moi. J'avais 24 ans quand j'ai fait ça. C'était une grosse responsabilité. Ça m'a beaucoup formée. Et puis après, Après, j'ai travaillé pendant 12 ans dans une structure du tourisme associatif qui est un réseau d'accueil de jeunes, d'hébergement de jeunes en France, où je m'occupais de toute la promotion, la communication pour l'ensemble du réseau. Et après, après une reprise d'études pour avoir un Master 2, puisqu'on m'avait dit que pour diriger une association, il fallait que j'aie un Master 2. Donc je suis retournée à la fac à 38 ans. J'ai eu mon diplôme, difficilement, parce qu'avec des enfants en bas âge, c'était pas facile. Et après, je me suis posé un an et demi pour élever mes enfants et faire des travaux dans ma maison. Et le jour où j'ai fini mon chantier, il y avait l'annonce de la thèse qui paraissait. Donc j'ai postulé et puis j'ai été prise. Et donc ça fait 3 ans et demi.
Mais en fait, t'as bossé comme une dingue tout le temps. Est-ce que tu as eu quand même le temps dans ton parcours de voyager ?
J'ai beaucoup voyagé parce que j'ai eu la chance déjà d'avoir des parents voyageurs, des grands-parents voyageurs. Pour la petite anecdote, mes grands-parents maternels sont partis en voyage de noces au Canada en bateau à l'époque où les hommes et les femmes étaient chacun dans une partie du bateau. Et ils y sont restés 10 ans. En fait, ils ont fait leurs enfants là-bas, ils ont vécu là-bas. Et mon grand-père a été, après aux États-Unis, a été naturalisé américain, resté vivre là-bas et mort là-bas. Donc ça remonte à loin, ce goût du voyage. Donc j'ai beaucoup voyagé parce que dans le cadre de la Conférence mondiale du tourisme de jeunes, dès 1994, j'étais dans le staff de la conférence, donc dans les petites mains qui préparaient les papiers en coulisses, qui faisaient traductions, etc. Et tous les ans, cette conférence avait lieu dans un pays différent, ce qui m'a amené à voyager aux États-Unis, au Mexique, en Thaïlande 2 fois, en Australie, à Rhodes, dans pas mal de pays du monde en fait.
Mais dans le cadre du boulot là ?
Dans le cadre du travail, mais à chaque fois je rajoutais une semaine, 10 jours pour aller me promener.
Et avec tes parents aussi alors, tu as pu déjà enfant vivre, goûter à cette magie de la rencontre et du voyage ?
Oui, à différents titres en fait, parce que à la fois on voyageait avec les moyens qu'avait un jeune couple avec 3 enfants en bas âge. Donc on a beaucoup voyagé en France, en gîte rural, alors beaucoup à la rencontre des habitants. Donc ça, c'est peut-être pas anodin que je me retrouve aujourd'hui à la thèse, parce que le côté gîte rural, c'était vraiment pour être passé 3 semaines dans un village et puis ben, vivre la vie du village, alors même si c'était en Bretagne ou en Ariège. Après, je me souviens d'un voyage qui a été aussi très fondateur en 88, où avec mes parents, on est partis en famille, tous les 5, en Grèce. faire le tour du Péloponnèse. Et on est parti en voiture de Paris jusque là-bas, avec deux nuits dans un bateau. Et pendant un mois, on a voyagé en camping, c'est aussi question de moyens à l'époque, et faire tout ce tour du sud de la Grèce en famille. Et ça a été un voyage qui a beaucoup compté, en fait, dans ma construction personnelle. Et j'ai aussi beaucoup voyagé sans bouger, à travers mes parents, parce qu'ils étaient très actifs dans beaucoup d'associations. On a reçu des dissidents boliviens à la maison. On a reçu, je ne sais plus à quelle occasion, mais on avait eu un jeune Chinois pendant un mois à la maison. Ils étaient très actifs dans une association humanitaire qui travaille avec des intouchables dans le sud de l'Inde, dans la région de Madras, à Mangalapuram, je me souviens même du nom du village. Et on a reçu plusieurs fois ces instituteurs indiens à la maison. Donc en fait, on a beaucoup voyagé sans bouger de la maison parce qu'on a eu cette culture dès tout petit d'accueil des gens différents, de s'intéresser aux autres cultures et de les accueillir chez nous. Voilà.
En fait, c'est cohérent. Quand je t'écoute, il y a vraiment un fil conducteur qui mène d'une étape à une autre. C'est hyper cohérent.
Je m'en rends compte, en fait, en racontant tout ça, je me dis, c'est la première fois que je reviens un peu sur tout ça. Et je me dis, effectivement, ça, c'est peut-être pas un hasard complet que j'arrive aujourd'hui à travailler à la thèse qui défend des voyages, qui valorise la culture, les gens, la rencontre avec les gens. Voilà, bah je me dis que finalement, à 40 ans, j'ai peut-être trouvé exactement, mais que ça vient de quelque part. Ouais.
Avant de me parler de la thèse, j'aimerais que tu reviennes sur ce terme qu'on a beaucoup utilisé, le mot voyage. Qu'est-ce que c'est que pour toi que le voyage? Qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et qu'est-ce que c'est que voyager?
Voyager, c'est rencontrer, en fait. C'est grandir. C'est-à-dire que je crois beaucoup au voyage qui forge, même si ça n'a pas forcément besoin d'être des voyages très longs ou très loin, mais je pense qu'à partir du moment où on se déracine, où on sort de son quotidien, de sa zone de confort, des gens qu'on connaît, on grandit parce qu'on apprend la tolérance, on apprend l'écoute, on apprend la bienveillance au contact des gens qu'on rencontre, même si c'est à 200 km de chez soi, on est quand même sorti déjà de sa zone de confort, donc je pense que ça fait grandir. C'est drôle parce que les gens ne voient pas, mais je suis 1m54, donc ça ne m'a pas fait beaucoup grandir en taille, mais je crois que ça fait beaucoup grandir dans la tête et en termes de développer ces qualités-là, de bienveillance, de tolérance. Et aujourd'hui, que je suis maman de deux petits garçons de 7 ans et demi et 10 ans, dès tout petit, on a souhaité, avec mon mari, les faire voyager. Il y a 3 ans, on les a emmenés faire un road trip dans l'Atlas marocain, chez l'habitant. Et c'est des enfants qui aiment ça. Tous les ans, on essaye de les emmener, pas forcément très loin. On a été en Andalousie l'année dernière avec la même formule, et puis en Irlande cet été. Mais c'est des enfants qui s'intéressent du coup aux autres cultures, qui comprennent qu'on ne vit pas partout de la même manière, qu'on n'a pas les mêmes richesses partout, qu'on n'occupe pas son temps de la même manière partout, qu'on ne mange pas la même chose partout, et du coup qui s'intéresse beaucoup à ça. Et je me dis que probablement ça fait grandir et apprendre de voyager. Parce que quand on est parti, à tous les coups ils ont loupé une journée d'école parce que les billets d'avion étaient moins chers pour partir. Et je me suis dit, mais finalement ils ont appris tellement plus en voyageant.
Est-ce que tu fais une différence entre partir en vacances et partir en voyage?
Pas forcément. Enfin, pour moi, les vacances, ça n'a jamais été synonyme de glandouille, en fait, de plage. Je m'ennuie vite, en fait, sur la plage. Donc, pour moi, le voyage, c'est des vacances, même si ce n'est pas du repos. C'est des vacances parce que ça dépayse, parce qu'on sort de son quotidien. Donc, à partir du moment où on sort de son quotidien, c'est des vacances.
Donc pour toi, le voyage et les vacances, c'est un peu la même chose, tu identifies? Ou comment est-ce que tu ferais la différence entre les deux?
J'ai malheureusement jamais eu l'occasion de faire des voyages au long cours. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est un regret. J'aurais aimé pouvoir le faire plus jeune, mais je n'ai pas eu l'occasion. Et puis comme j'ai travaillé assez tôt, je ne l'ai pas fait. Mais je mets assez peu de différence. Pour moi, un voyage, il commence, c'est ce que je disais. Un voyage, il n'est pas forcément loin, il n'est pas forcément long. Et je pense qu'à partir du moment où on se déracine, on voyage. Donc, que ce soit en vacances, moi j'ai beaucoup voyagé à titre professionnel, c'était des voyages aussi, je n'étais pas en vacances, mais parce que j'étais au contact d'autres gens, donc non, je ne fais pas trop de différence en fait entre les deux, même si j'ai fait des voyages qui étaient des vacances et des voyages qui étaient des voyages professionnels, je ne fais pas tant de différence que ça.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Aujourd'hui, tu es directrice de l'ATES, donc on va s'intéresser à l'ATES.
Alors, c'est l'Association pour le tourisme équitable et solidaire. Donc, l'ATES a été créée en 2006 par des voyagistes, par l'Union nationale des associations de tourisme et par la plateforme du commerce équitable. Donc, c'était créer une association qui réunisse les secteurs du voyage, du commerce équitable, et de la solidarité internationale. On est un peu aux confins de ces trois secteurs-là pour faire en sorte que le voyage puisse être un levier de développement local pour les destinations qu'on va visiter, si je résume.
Donc c'est retrouver du sens quelque part, en tout cas mettre du sens dans son action professionnelle pour pouvoir aider les populations à travers le tourisme qui est en train de se développer et exploser.
Ouais, le tourisme, c'est 1,2 milliard, je crois, aujourd'hui de voyages internationaux au niveau mondial. C'est beaucoup de dégâts aussi. C'est beaucoup de bienfaits économiques probablement, mais souvent à court terme pour les pays. C'est beaucoup de dégâts écologiques, culturels.
Tu peux nous en parler, donner des exemples pour qu'on puisse un peu visualiser. Donc le tourisme, on n'a pas forcément cette vision-là ou conscience de l'impact qu'on peut avoir en partant faire des vacances.
Le tourisme, d'abord, c'est souvent prendre l'avion. Donc l'avion, c'est un gros impact carbone. C'est parmi les plus lourds en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'à l'ATES, on a peu d'offres ou pas d'offres long courrier, c'est-à-dire de voyages lointains de moins de 15 jours. Parce qu'on dit, OK, on va prendre l'avion, on n'a pas le choix, on ne va pas y aller en pirogue, on n'a pas forcément le temps, on travaille. On va loin, mais du coup, on va y rester plus longtemps pour limiter les impacts carbone, mais aussi pour mieux profiter des gens, des gens qu'on va rencontrer, etc. Donc, c'est voyager moins loin et ou moins longtemps, et ou plus longtemps. Donc ça, c'est les méfaits écologiques. Au-delà des émissions de gaz à effet de serre, il y a aussi le fait que les touristes peuvent aller à peu près où ils veulent, qu'ils peuvent détruire des écosystèmes sans forcément le savoir, abîmer la biodiversité. Le fait qu'il y ait eu des gros resorts ou des grosses stations de ski, puisqu'on est dans les Alpes, qui ont été créés dans des coins où il y avait des écosystèmes fragiles ou une biodiversité particulière. On ne s'est pas trop soucié à l'époque de savoir ce que ça détruisait. Voilà, on s'est surtout soucié du bienfait du touriste et puis surtout du fait qu'il dépense le plus possible quand il allait en vacances, mais pas vraiment de cet impact sur l'environnement, sur l'écologie en général. C'est beaucoup de transport aussi localement, les voyages. C'est souvent des constructions lourdes, pompées dans les ressources naturelles, créer un hôtel avec une piscine dans un pays où il y a de la sécheresse, faire un golf qui demande énormément d'eau sur des pays où on manque d'eau. C'est aussi des impacts culturels qui sont importants parce que ça a amené à des dérives de folklorisation. On aura l'occasion d'en parler dans une conférence demain qu'on anime à l'ATES, de dire bah voilà, on va faire remettre des habits folkloriques aux habitants parce que c'est ce qu'attendent de voir les touristes. Donc voilà, ça a du bon parce que ça a pu amener un développement économique de certains pays, mais souvent un développement économique qui a profité à certains investisseurs ou des promoteurs ou des gens qui ont investi dans le tourisme et pas forcément aux populations locales. Ça s'est souvent fait au détriment des populations locales. Je ne suis pas sûre qu'elles aient beaucoup été associées aux choix, aux stratégies de développement touristique des pays ou des destinations, même en France. Elles ont peu été associées et on l'a vu cet été à quoi ça pouvait mener dans les grandes villes comme Berlin ou Barcelone où les habitants se sont rebellés parce que leur ville est devenue une ville musée où il n'y a plus de commerce de proximité, où le logement est quasiment inaccessible parce que le logement touristique a pris le dessus et qu'eux ne peuvent plus se loger dans leur quartier, qui sont envahis de touristes, qui font du bruit, qui ne respectent pas leur environnement. Donc voilà, on voit à quoi ça a mené de ne pas associer les habitants, que ce soit des villes, des destinations, que ce soit au nord ou au sud, au développement touristique. Et on voit bien que ce développement touristique a souvent été fait un peu avec une vue court-termiste, c'est-à-dire de la rentabilité maximum à court terme. Et ça, à la thèse, c'est ce qu'on cherche à éviter en associant les habitants à la construction des voyages, en co-construisant les voyages avec eux pour savoir ce qu'ils ont envie de montrer de leur pays, de leur culture, etc. En les payant le prix qu'ils demandent, parce que c'est le prix des prestations qu'ils créent. Hein, ça, c'est les règles du commerce équitable. Voilà, en gros, les premières idées sur la question.
Et éviter aussi tout ce qui est tourisme de masse. C'est souvent des petits groupes qui sont envoyés via les membres partenaires de la TES.
Oui, effectivement, à la TES, on n'envoie pas de groupe de plus de 12 personnes. Ça, c'est la règle dans notre référentiel. Dans la réalité, c'est des groupes de entre 4 et 8 personnes. Donc, c'est des tout petits groupes, à la fois pour ne pas être trop intrusif quand on voyage quelque part. Et si on veut aller dans des villages de toute façon ou dans des communautés restreintes, arriver à 50, il n'y a pas forcément les capacités d'accueil pour 50 personnes. Et puis la qualité de la rencontre et du partage avec les populations n'est pas du tout la même. Quand on arrive à 4, 8, on peut participer à la vie quotidienne. On est logé dans le village par des familles d'accueil, ce qu'on ne pourrait pas assurer à 50. Alors le tourisme de masse, bon, après c'est bien que chacun puisse avoir accès à du tourisme. Moi je pense que le tourisme de masse a fait énormément de dégâts, et ce qui a créé surtout du dégât, surtout ces dernières années, c'est, mais ça vaut pour toute la consommation, c'est le tourisme low cost qui va permettre de voyager énormément, de prendre beaucoup l'avion, d'aller passer 3 jours par-ci, 3 jours par-là. On va finalement rien voir de la destination, on ne va pas rencontrer les habitants des destinations, on va avoir un impact carbone considérable. Mais on pourra dire qu'on a fait New York, qu'on a fait Rio. Donc je pense que effectivement le tourisme de masse, de toute façon aujourd'hui on est dans une ère de tourisme de masse, 1,2 milliard de voyages internationaux, sans compter tous les voyages domestiques, c'est-à-dire au sein même de son pays, c'est considérable. On ne pourra pas inverser cette tendance-là. Après, le tout, c'est d'essayer de tirer vers le haut et de faire prendre conscience aux voyageurs d'une part et aux professionnels d'autre part, que les professionnels, en détruisant l'écosystème humain, culturel, environnemental des destinations à laquelle ils vont, ici la branche sur laquelle ils sont assis, ceux-ci détruisent ce qui fait le charme de la destination, les touristes n'iront plus. Et les voyageurs, il faut leur faire aussi, je pense, prendre conscience de ce que peut être l'impact de leur voyage sur les populations. Et on peut le faire de manière très constructive et joyeuse. On n'est pas obligé d'être moralisateur ou défaitiste, ou voilà, dire voyager plus longtemps, moins loin, etc. C'est aussi une manière de faire du tourisme.
Et j'entends souvent dire, hein, beaucoup de touristes ne veulent pas aller là où il y a des touristes.
Et personne n'est un touriste. Personne ne se définit comme un touriste. Chacun est un grand voyageur, en fait. Hein. Découvre un explorateur, un peu.
Et en arrivant quelque part, tout le monde veut sortir des sentiers battus pour éviter les touristes.
Oui, du coup, ils se retrouvent tous hors des sentiers battus, en fait. Oui, bon, après, c'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Il y en a quelques-uns qui le font, qui voyagent vraiment hors des sentiers battus. Moi, il faut faire attention quand même aussi à ça, parce que je vais prendre un exemple que tout le monde connaît et qui n'est pas si loin de chez nous, la protection du littoral. Il y a eu tout un travail de protection du littoral parce qu'on sait aussi que la végétation sur les dunes est très particulière et fragile, etc. Ben, c'est pas génial d'aller hors des sentiers battus. Là, on a fait des axes pour que les gens puissent passer sans abîmer, respecter ce qu'il y avait autour, cette végétation, cette fragilité. Ben là, aller voyager hors des sentiers battus, c'est abîmé. C'est abîmé ce qu'on essaye de protéger. On peut extrapoler ça au tourisme. Vouloir voyager hors des sentiers battus, c'est bien, mais il faut faire attention quand même aux sentiers sur lesquels on marche, parce que ça peut être des zones protégées, des zones naturelles qu'il est important de protéger, enfin de sauvegarder, de préserver aussi. Donc je pense qu'être un voyageur responsable, c'est aussi se poser ces questions-là et de dire, aller complètement hors des sentiers battus pour faire ce que les autres n'ont pas fait, quel impact ça peut avoir aussi. Il faut se poser la question.
Et il y a cette histoire, donc une rencontre que j'ai fait au Grand Bivouac avec Solène Bardet, qui avait fait un film sur les populations Limba. Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on s'imagine souvent que voyager en groupe a une répercussion plus négative qu'un voyageur qui part seul avec son sac à dos. Et Solène, qui connaît bien les Limba, me disait « Mais non, en fait, quand un mec arrive tout seul dans un village avec son sac à dos, les Limba sont hyper emmerdés, ça les saoule, parce que c'est qui ce gars-là, comment on va s'occuper de lui, il connaît rien de notre culture, il va falloir s'occuper de ce boulet, ça va être chiant, quoi. » Par contre, quand il vient avec un groupe et un guide, ben du coup, c'est beaucoup plus light pour les Limba. Parce que le guide sait comment s'y prendre, sait comment... Donc finalement, en pensant des fois bien faire, on se rend compte qu'on a aussi un impact négatif.
Oui, absolument. Et c'est pour ça, à la TES, on a effectivement... Là, j'ai rencontré pas mal de gens qui me disaient « Oui, moi, je voyage plutôt sac à dos. Je suis pas trop voyage organisé, etc. » Mais c'est exactement ce que tu dis. C'est que ça, c'est la vie des voyageurs. prenons quand même en compte l'avis des gens qui vont nous accueillir. Les gens partout, c'est universel, aiment bien accueillir. C'est assez universel, c'est le sens de l'accueil. Quand on veut accueillir des gens, on veut bien le faire. Donc prévoir un petit peu, c'est pas plus mal qu'il y ait un guide qui puisse traduire dans les deux sens, à la fois une question de l'hôte, une question du voyageur, une difficulté du voyageur. Voilà, d'avoir un guide local qui connaît cette culture, qui peut expliquer aussi aux voyageurs à la thèse. On a systématiquement la préparation des voyageurs au départ, parce qu'il nous semble que c'est important. On va dans des destinations qui ne sont pas si évidentes que ça, d'expliquer ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, la culture locale, les traditions, comment on peut se comporter avec les gens, etc. Je pense que toute cette préparation, et qui est prolongée par le guide pendant le voyage, c'est-à-dire d'être là pour répondre à ces questions, tous les voyageurs veulent surtout ne pas commettre d'impair. Hein. La plupart, ils veulent être le plus respectueux possible. S'ils n'ont pas ce retour-là de quelqu'un qui connaît, effectivement, c'est un peu compliqué de savoir comment se comporter. Et oui, il vaut peut-être mieux être en petit groupe, en petite unité, mais tout seul et arriver à l'improviste, effectivement, ça ne doit pas forcément arranger. Je sais pas, la mère de famille qui a une chambre, elle a peut-être pas préparé la chambre, le dîner, elle a peut-être pas préparé pour accueillir un voyageur, etc. Donc ça peut être pas forcément bien vécu par les populations.
Bien sûr, et aussi le côté positif pour le tourisme responsable, c'est l'apport économique que ça va apporter sur les populations.
Effectivement, nous, là encore à la thèse, on essaye, c'est même un critère obligatoire, de privilégier tous les prestataires locaux, à la fois d'être logé chez l'habitant ou à proximité ou dans des établissements qui sont gérés par la population locale. Donc ça va être des petites unités, faire en sorte que l'argent qui est dépensé par le voyageur reste dans la destination et ne se retrouve pas dans un hôtel qui appartient à un groupe multinational et qui remonte, en fait, c'est de l'argent qui remonte dans des pays développés, où il y a le siège du groupe hôtelier. Donc on va privilégier ces prestations locales, ça vaut pour l'hébergement, ça vaut pour les guides, pour les restaurants, pour l'artisanat, etc. Donc maximiser les retombées économiques, c'est aussi une forme de... C'est ça la forme de solidarité que nous on veut apporter. C'est ça, et c'est aussi de pouvoir financer, grâce au fonds de développement qui est généré par les voyages, des projets qui bénéficient, au-delà de la famille qui va accueillir, à toutes les familles d'un village. Donc s'ils ont un besoin particulier dans le village, alors ça peut être des choses très diverses, ça peut être la formation des femmes pour gérer une coopérative d'artisanat, ça peut être un four solaire pour le village, ça peut être, récemment on a financé, une association qui a financé du matériel scolaire pour remplacer le matériel dans une école dans un pays d'Asie. Voilà, ça peut être des choses très variées. Ce fonds de développement, nous il est important, par contre il est aussi important qu'ils soient gérés par les populations elles-mêmes, parce que c'est elles qui connaissent leurs besoins et qui peuvent l'identifier et qui peuvent faire appel à d'autres associations, des partenaires locaux pour le mettre en place.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage. Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi, je crois que j'avais découvert ça en Mongolie, donc tu avais des familles qui donc accueillaient des groupes de touristes, deux ou trois personnes dans leur yourte, et ça crée des tensions au sein des familles entre elles, parce que voilà, pourquoi est-ce qu'eux accueillent des gens, donc on va voir leur statut économique qui va se développer, on va pouvoir s'acheter un cheval, une chèvre, et moi j'accueille personne, et donc du coup ça divise aussi des fois les populations elles-mêmes.
C'est pour ça que il nous semble très important que le tourisme puisse bénéficier à tous dans la communauté. Donc effectivement, on va payer une famille ou deux ou trois selon l'importance du groupe pour accueillir des voyageurs. Mais c'est pour ça que ce fonds de développement est essentiel, puisque l'idée c'est de faire en sorte que le tourisme ait un impact positif économiquement parlant pour l'ensemble du village et pas que pour le guide ou la famille qui accueille.
En tout cas, pour celui qui se pose des questions sur le sens à donner à son voyage et l'envie de voyager différemment, qui a envie de voyager en conscience et qui est justement conscient de cet impact qu'il peut avoir, donc le tourisme solidaire et responsable, la thèse peut être une solution, peut donner des pistes pour voyager différemment.
Oui, et j'aimerais bien en profiter justement pour sensibiliser aussi les voyageurs à autre chose. Nous, à la thèse, on est très attentifs aussi à ce que les voyageurs ne participent pas à des projets ça se développe beaucoup en ce moment. Il y a des structures souvent, pour certaines très peu scrupuleuses, qui, sous prétexte que le voyageur a envie de bien faire, d'aider et de bien faire lors de son voyage, vont lui proposer de faire un chantier, de construire, une école ou de repeindre un orphelinat, etc. Ce qu'il faut savoir, et vraiment là on insiste auprès des voyageurs, c'est renseignez-vous sur la structure, renseignez-vous sur son sérieux. C'est souvent des structures qui sont plutôt financées par des gros sous, qui cherchent plutôt à faire du gros sous sur le dos des voyageurs en leur faisant croire que leur action est utile. Mais souvent, nous, ce qu'on dit, c'est est-ce que, parce qu'on voit parfois des voyageurs qui sont dans des dispensaires. Est-ce que nous, ici, on accepterait, quand on va à l'hôpital, de se faire piquer, se faire faire une piqûre par quelqu'un qui n'a jamais eu une formation d'infirmière? Est-ce qu'on accepterait que nos enfants aient des cours d'anglais par un touriste américain qui viendrait passer quelques jours à Paris et qui passerait deux jours dans l'école pour leur apprendre Jingle Bells et réapprendrait Jingle Bells toutes les semaines avec un touriste différent? Je ne crois pas qu'on l'accepterait. Donc pourquoi est-ce qu'on ferait ça dans les pays du Sud? Nous, on défend beaucoup l'idée. On préfère que les voyages génèrent un budget qui soit géré par les populations locales et par les associations locales, permettent d'embaucher durablement du personnel dans les orphelinats, les écoles, etc. Donc de créer de l'emploi localement, de permettre aux enfants, si c'est le cas d'orphelinat ou d'école, de créer une relation particulière et durable avec la personne qui va s'occuper d'eux, plutôt que de faire penser aux touristes qu'ils ont fait du bien. Souvent, les gens qui en ont fait, qui sont revenus, les structures professionnelles qui en sont revenues, ont dit, effectivement, en plus, c'est un poids à gérer. C'est des gens qui ne savent pas forcément faire. Hein.
C'est un coût parce qu'on paye pour aller aider.
Et alors voilà, je travaille en lien avec des structures du volontariat international, qui sont les structures de volontariat à proprement parler, qui disent la première règle du volontariat, c'est la gratuité. Donc à partir du moment où on paye très cher...
Pour aller sauver des tortues ou planter des arbres.
Pour aller dans des orphelinats ou dans des écoles, il y a un problème. Le volontariat, il doit être gratuit. Donc souvent, c'est que les frais de séjour qui sont pris en charge par le volontaire éventuellement, son billet d'avion puis ses frais de séjour. Il doit être plutôt plus long, c'est pas trois jours ou une semaine, ça a peu d'impact en fait. Il doit être plus long, puis surtout les gens doivent être formés. Pourquoi un ingénieur informatique parisien irait monter un mur en parpaing? Il n'a aucune compétence pour monter un mur en parpaing.
Mais pour travailler sur ce genre de projet, il existe quand même des organismes, je pense à France Volontaire, où là il y a une formation en amont, c'est des missions qui durent 1, 2, voire jusqu'à 4 ans.
Absolument, et là c'est du vrai volontariat. Là on est vraiment sur une démarche qui est totalement différente d'une démarche de voyage touristique sur 2 semaines. Là on forme des gens, ils sont préparés, ils sont encadrés, ils partent longtemps, ils ont une compétence au départ. Une infirmière peut faire du volontariat et dire je pars 6 mois en mission ou 1 an en mission avec une ONG sérieuse, faire du volontariat dans un hôpital ou dans un dispensaire, mais elle a une formation d'infirmière au départ. Donc le volontariat est très louable à partir du moment où il y a cette démarche de gratuité, où il est encadré par une ONG qui est sérieuse et on n'est pas là pour faire un peu de volontariat pendant ses vacances. Quand on est en vacances, on est en vacances. On est là déjà pour découvrir, rencontrer des gens, partager le quotidien des gens, découvrir une culture. C'est déjà beaucoup le simple fait de voyager dans ces pays-là de manière responsable. Ça apporte une forme de développement au pays, ça aide les populations parce qu'on va laisser de l'argent localement, ça va constituer un complément de revenus pour elles si elles ont une activité agricole, artisanale ou autre. Ça va être un complément de revenus qui va parfois leur permettre de rester sur leur territoire, de maintenir leur activité traditionnelle. C'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup et ça suffit.
Caroline, pour terminer, pourquoi est-ce qu'il faut partir avec un des membres de la TES? Ça donne-nous envie là.
Alors quand on a des enfants, moi, pour l'avoir fait avec les miens, partir en immersion dans un village, bon, moi je suis partie au Maroc, mais ça peut être au Burkina, parce qu'on a une structure très chouette qui fait des voyages en immersion au Burkina, mais ça peut être dans n'importe quel autre pays du monde. Eh bien, ils ont joué au foot, parce que le foot c'est universel. Et les enfants ont vraiment découvert une culture simplement en vivant la vie quotidienne. On n'a rien fait d'extraordinaire, mais en vivant la vie quotidienne. Et j'invite les voyageurs à aller sur le site de la TES et voir, puisque c'est totalement transparent, le référentiel intégral de notre évaluation qui est en ligne et qui permet à chacun de voir qu'est-ce qu'on regarde comme critère, comment on évalue que ce critère est validé ou pas validé, de voir que c'est une démarche sérieuse. Donc je pense que se baser sur le label Garantie Tourisme Équitable et Solidaire, c'est quand même un gage de sérieux, un gage qu'au moins on a regardé dans le détail. Comment ça se passe ? On a regardé le contrat du guide, on a regardé combien étaient payées les familles d'accueil dans les pays, etc.
Merci beaucoup Caroline Attes, A-T-E-S, facile, hein, Google, hein, on trouve Attes, et là on a aujourd'hui 17 associations, et donc chacune propose des destinations différentes.
On propose jusqu'à 60 destinations, on a 300 offres de séjour, donc je pense que tout le monde peut s'y retrouver, que ce soit séjour en immersion, trek, circuit culturel, voyage découverte, et tout type de voyages qui sont proposés.
Merci Caroline.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.